Alors, on va parler de la question. J'ai pensé un peu que faire cet après-midi. On parlait de la question de l'autorité sur soi-même, la question de la maîtrise de soi. Parce que c'est quelque chose que l'on n'aborde pas beaucoup. Donc, on a plus parlé de la question de l'autorité sur les autres. On a vu l'importance de reconnaître l'autorité de Dieu, l'importance de voir l'autorité comme un service, à la manière de Jésus. Que l'autorité, on est des dépositaires, hein. On n'est pas comme propriétaires, mais on agit comme ceux qui agissent au nom d'un autre, qui auront des comptes à rendre, donc ça implique une certaine limite. Mais aussi on a un peu évoqué, mais ça me paraît important de l'approfondir, la question de l'autorité, la maîtrise de soi. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, c'est pas quelque chose de si courant, la maîtrise de soi, et à la lumière justement de la parole de Dieu. La première chose qu'on peut dire, c'est que la maîtrise de soi est un don de l'Esprit-Saint. Être maître de soi-même, voilà la manière d'agir de celui qui est sous l'action de l'Esprit-Saint. Pour ça qu'il y a des gens, bien souvent on se dit, mais comment est-ce que je sais si l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais a priori nul ne l'a jamais vu puisqu'il est Esprit. Comment est-ce que je sais que je suis dans la mouvance de l'Esprit-Saint? Comment? Eh bien, c'est ce que nous dit saint Paul, ça nous aide à découvrir est-ce qu'on agit ou non sous la motion de l'Esprit-Saint. Alors, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. C'est les dons, hein, les fruits de l'Esprit-Saint. Hein. C'est la manière d'agir. Donc, on voit à partir de la manière dont on a d'agir, on voit qu'est-ce qui nous meut intérieurement. Hein. Et ça, c'est... Et saint Paul fait la comparaison avec ceux qui se laissent aller à leur passion, hein, jalousie, colère, envie, beuverie, gloutonnerie, autre chose du même genre. Ça, c'est ceux qui agissent, hein, selon la chair. La chair, pour saint Paul, c'est important de se restituer. C'est pas la chair, c'est pas simplement le charnel ou les questions sensuelles ou que sais-je. La chair, c'est ce qui s'oppose à l'esprit. Donc, l'esprit de domination fait partie de la chair, même si c'est quelque chose de plus spirituel, on pourrait dire. Hein. L'orgueil fait partie de la chair, pour Paul. Hein. C'est ce que Jean appellera le monde. Le monde ne m'a pas connu. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans l'Esprit du Seigneur, hein, qui ne sont pas mus par l'Évangile. Donc c'est important de voir les fruits de l'Esprit-Saint, de dire que dans notre vie, l'Esprit de Dieu agit et il produit des fruits. Et donc, comme dit Jésus, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, regardons dans nos vies quel est le fruit que nous produisons. Mais aussi, je trouve ça beau, c'est que de faire découvrir à d'autres personnes qu'au fond, il y a l'Esprit Saint qui travaille leur cœur, même si ces personnes-là n'en sont pas forcément conscientes. Parce que leur manière d'agir, ça prouve que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans leur cœur. On va parler surtout du fruit de la maîtrise de soi. On disait ce matin l'importance d'une autorité sur soi-même. L'autorité sur soi-même, c'est la maîtrise de soi. À quoi ça se remarque et comment ça se construit, parce que c'est, j'allais dire, la source de tout. Avant peut-être d'aller dans ce sens-là, rappelez ce que dit saint Paul, il y a un combat spirituel. Celui qui veut vivre l'autorité sur lui-même ou sur l'autorité sur les autres a un combat spirituel, et c'est ce que dit Paul, hein. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Donc, soyons conscients que si l'on veut aller dans le chemin de l'Évangile, de toute façon, il y aura un moment donné où on verra comme une tentation. Là, on voit, je vous rappelle, c'est la lettre aux Galates. Hein, j'ai lu la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. La lettre aux Galates. Hein, il dit, il y a une... Et saint Paul dira, malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais c'est ce qu'on constate tous les jours. Hein, on voudrait faire le bien, on n'y arrive pas, on voudrait pas faire le mal et on le fait quand même. Parce que il dit en moi il y a des tendances qui s'affrontent, ça c'est tout, quoi. Donc celui qui veut rentrer dans une démarche spirituelle et de grandir dans l'autorité sur lui-même, dans la maîtrise de lui-même, va rentrer dans un combat intérieur. Hein. Et il y a fondamentalement trois choses qui font obstacle à cette maîtrise de soi. C'est les trois formes d'orgueil, hein, ce qu'on appelle l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. C'est les trois formes aussi qui s'opposent à la manière d'exercer l'autorité selon l'Évangile, que celui qui a l'autorité veut le mettre au service de la chair, au service de ses richesses, au service de l'esprit, dans le sens d'une domination sur l'autre, hein, d'une emprise sur l'autre. Et ces trois formes de tentation, les trois formes de combat, c'est des lieux. C'est-à-dire, tous nos combats sont autour de ça. C'est-à-dire que, oui, non, mais c'est un moteur, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est de dire je veux asservir l'autre grâce à mes propres richesses. Qu'une entreprise fasse du bénéfice, c'est comme si on s'arrêtait de respirer, je veux dire, ça fait partie de la logique. Mais c'est plutôt de dire c'est l'orgueil, c'est avec sa entreprise ou à l'extérieur, c'est pas forcément une entreprise, mais je veux par ma richesse asservir. C'est plutôt dans ce sens-là. Hein. C'est, je veux dominer par ma richesse. Je veux. Alors que l'entreprise offre un service qui doit être lui rémunéré, etc. Ça, c'est la logique des choses, c'est tout à fait normal. Mais là c'est ça part de dire, avec l'argent, je peux assouvir toutes mes passions. Quoi. Et donc,
il paraît que c'est les trois tentations du Christ.
Bien sûr. C'est les trois tentations du Christ. Le pain pour l'orgueil de la chair. Il te montre tous les royaumes, ça c'est les richesses. Il l'emmène au sommet du temple, jette-toi de ce temple. Ben, c'est l'orgueil, c'est-à-dire être au-dessus, se mettre à la place de Dieu. Et c'est les trois vœux religieux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Ben, vous voyez, c'est... Parce qu'il y a tout en... On peut très bien dire, si on veut se confesser, comme une ligne qui peut nous aider, ben, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'orgueil de la chair, à l'orgueil de l'esprit, à l'orgueil des richesses. Est-ce que j'ai... à niveau personnel, hein, comment est-ce que j'ai... Alors, il faut voir que dans la manière, justement, la conduite de l'esprit de Dieu, vivre sous la conduite de l'esprit de Dieu, ça veut dire renoncer, disons, lutter contre ces trois tendances qui sont en nous. Et tous les péchés sont ordonnés autour de ces trois trucs. Puis on n'a rien inventé de nouveau sous le soleil. Hein. Il y a l'Internet, il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De ce côté-là, les moyens sont peut-être plus accessibles, sont plus rapides, sont je ne sais pas quoi. Mais en termes de péché, on n'a rien inventé de nouveau. Donc. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est... Mais il y a un manque, mais voilà. Il y a un manque de créativité, mais c'est vrai, hein. Dans le péché, il n'y a pas de créativité. C'est vrai parce qu'une fois qu'on a fait le mal, il y a la diffusion qui est plus importante, ça c'est vrai, mais... Enfin bref. Donc toujours est-il, alors, par rapport à... Et donc la maîtrise de soi, c'est aussi par rapport à ces trois points. Hein, par rapport à ces trois points. Hein, demander que le Seigneur nous aide à nous maîtriser dans l'utilisation des richesses, par exemple. Dans l'utilisation de notre intelligence et dans l'utilisation de tout ce qui est plus corporel, lié à la satisfaction immédiate, au plaisir charnel, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la partie sexuelle. Bon, c'est des lieux de combat de sainteté aussi. C'est des lieux de sainteté. C'est pas... Il faut arrêter de croire que c'est inné. C'est pas inné, je veux dire. L'homme, lui, il se construit. Il y a pratiquement rien d'inné, oui, les fonctions biologiques, on n'a pas besoin de les construire parce qu'elles se font sans nous. Mais tout le reste, on doit le faire. Et c'est tout le rôle de l'éducation. Hein, donc c'est saint Paul qui parle aux Galates, qui parle des fruits de l'Esprit Saint. Alors il y a trois sources, on peut dire trois critères par rapport à la maîtrise de soi-même. Premièrement, l'égalité d'esprit. Deuxièmement, la maîtrise dans les décisions. Et troisièmement, bon jugement des événements et des personnes. Donc on va détailler ça. Donc on a égalité d'esprit, prudence dans les décisions, bon jugement sur les événements et les personnes. Qui sont le signe, au fond, d'une maturité. Bon, maîtrise de soi, c'est maturité. C'est d'autres manières de dire les choses. Et quelqu'un de mûr pourra exercer l'autorité avec plus de facilité. Tant pour lui-même que pour les autres, du reste. Donc, alors d'abord l'égalité d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est vrai qu'on découvre à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos manières d'agir ou de réagir, dans nos émotions, beaucoup de variabilité dans notre caractère. On ne sait pas pourquoi on se lève grincheux, on ne sait pas pourquoi on est nerveux, tout nous agace, on ne sait pas pourquoi on est de bonne humeur et optimiste. Bon, vous voyez, toute cette partie émotionnelle, on peut dire, hein, affective, hein, d'une certaine manière, hein, qui a à voir avec l'égalité, le caractère, hein, fait qu'elle doit être, guidée. Cette partie affective, il ne faut pas la nier, hein, mais à nous de la guider. Et qu'est-ce qui va guider cette partie de l'affectivité? Sinon notre intelligence. C'est notre intelligence qui va nous permettre de remettre les choses dans leur finalité. Est-ce qu'il est juste que je fasse passer aux autres mes propres humeurs, par exemple? Est-ce que c'est juste d'avoir une telle ou antipathie ou sympathie qui est peut-être excessive? Donc, c'est l'intelligence qui va me permettre de découvrir le juste milieu, hein, dans ces choses, dans la partie d'égalité d'esprit. Et surtout, dans cette question-là, attention à l'imagination. L'imagination est une force en nous. Elle est bonne si on l'oriente vers des bonnes choses, elle est mauvaise si on l'oriente vers des mauvaises choses, donc ça c'est pas très sorcier. Mais attention à l'imagination qui peut justement nous faire, dans l'exercice de l'autorité, dans l'exercice de la maîtrise de soi, nous faire déconnecter du réel. On peut dire que celui est mûr, celui qui adhère à la réalité, à sa propre réalité, à la réalité de l'autre. Et ça c'est pas si facile. Oui. Non, il faut pas que mes sentiments prennent le dessus. C'est pas mes sentiments de me faire agir. Sur les décisions. On verra ensuite la prise. Les sentiments, ils sont là. Faut pas les étouffer. Non, ils sont là. Mais c'est pas eux qui ont les gouvernails. Celui qui a ou celle qui a le gouvernail, c'est l'intelligence dans notre personne humaine. C'est pas les sentiments. D'où la grande difficulté aujourd'hui. Hein, avec une société qui se base beaucoup sur les sentiments, sur l'affectif, sur l'émotion, tu le sens pas, etc. Ouais, du coup, on est manipulable.
Mais après, il n'y a pas que des intelligences rationnelles.
Oui, il y a
d'autres formes d'intelligence, par exemple intuitive, etc.
L'intelligence, l'intelligence, c'est pas l'érudition. C'est pas pareil. C'est pas être devoir 18 au bac, c'est pas ça. C'est une faculté, il y a des personnes c'est une faculté d'adhérer au réel, c'est ça. La vérité, c'est quand l'intelligence, elle est en lien avec le réel. Donc on peut avoir une grande intelligence des situations, des choses, sans avoir une intelligence, on peut dire, académique. Mais bon, nous, en France, en général, on sanctionne plutôt par la partie académique, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps déconnecté des choses, mais c'est important de dire, au fond, d'éduquer, rendre intelligent, c'est faire que la personne soit de plus en plus en lien avec le réel. Je dis ça pour l'éducation. Et donc, l'intelligence, ça va servir à quoi? À prendre un certain recul par rapport aux événements et à mes émotions. Tiens, je ressens, je ne sais pas quoi, de l'agressivité en moi. Ça, c'est des émotions. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est une émotion, point. En elle-même, l'émotion n'a pas de. Elle n'est ni bonne ni. Tout dépend de ce que j'en fais. Je ressens. Je dis, mais tiens, je ressens face à telle personne l'agressivité. Ça peut arriver. Est-ce que je vais me laisser aller à mes passions, hein, comme disait Saint-Paul ce matin, hein. Ils se laissent aller à leurs passions. Ils cherchent partout des maîtres. Est-ce que je me laisser aller à mes passions? Ou est-ce qu'au fond, je vais me raisonner et je vais dire, mais est-ce que cette agressivité, pourquoi est-ce que ça me rend agressif? Et ce sera tout le travail de l'intelligence qui va me faire prendre conscience, au fond, que mes émotions, elles sont là, je les vois, mais c'est pas ça qui va me faire agir. Ça, c'est...
Oui. Est-ce qu'il y a des méthodes, justement, quand on sent que la moutarde nous entendait,
C'est un peu chacun, moi je n'ai pas vraiment de... Mais je crois que c'est à chacun de dire, est-ce que, je ne sais pas quoi, j'arrête de discuter, je vais faire un tour dehors... Je change de chaîne, on zappe, et puis non, mais... Non, mais ensuite, je crois que c'est à chacun. La manière... S'il y avait des techniques, je pense que ça se saurait, mais non, j'en sais rien. Mais à manière, moi, la manière, je crois que c'est à chacun de dire, oh là. Et puis ça s'exerce. Puis parfois on échoue une fois, puis l'autre fois on est plus maître de soi. Et par rapport à pourquoi des agacements, à, souvent des trucs comme ça, c'est.
Qui...
Ben, comme, ça le mettre au départ. Ben, bien sûr. Mais de dire, ben, au fond, qu'est-ce que. Et je dis ça par rapport à l'exercice de. Là. Pourquoi tu le regardes? Il le regarde, tu sais, lâche, ça aide.
Non, mais c'est vrai, on voit des.
Tu as raison, Grégoire.
Non, mais c'est vrai, on voit des personnes âgées qui ont été. Ouais. Qui ont eu des tempéraments de feu, etc. Ouais. Et qui sont ensuite.
Qui sont plus apaisés.
Beaucoup plus apaisés.
C'est vrai. C'est vrai.
Oui, l'expérience, quoi. Bon, là.
La prière, parce que le fait de prendre du recul, d'avoir l'habitude de prendre du recul par rapport à la.
C'est évident. Ça, c'est. Si on priait, si tout le monde. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, mais. Ne serait-ce que, je veux dire, si on prenait un temps de silence, au-delà d'une dimension de foi, mais on serait tellement moins dans cette hyperactivité, dans cette anxiété qui nous fait agir parfois et nous fait dire des choses ou faire des choses. Alors bon, la question de. Donc, par rapport à nos. Et par rapport à nos sentiments, et par rapport à. Nos sentiments, ils sont là, mais ce n'est pas eux qui vont gouverner. Notre imagination, elle est là. Mais ce n'est pas elle qui va gouverner, ce qu'on appelle la folle du logis parfois. Hein. Parce que moi j'imagine que l'autre fasse faire ceci, j'imagine que l'autre. Il faut voir un peu comment parfois ça peut aller loin, l'imagination, les pro. On projette sur l'autre des trucs, mais on n'est plus dans la réalité. Hein. Oh, mais non, on n'est même pas pensé. Parfois, des trucs tellement abracadabrants, bref. Donc la question, au fond, la maîtrise de soi aide à prendre du recul. Hein. Ça consiste en la matière à l'acceptation de la réalité, telle que de ma propre réalité, l'accueil de ma propre réalité. Hein. Et c'est vrai que cette forme de maîtrise de soi, de toute façon, ça ne se fait pas sans une certaine souffrance. C'est, j'allais dire, ça, c'est une certaine pénibilité. Donc on n'arrivera pas à un exercice de l'autorité sur nous-mêmes et sur les autres sans une certaine pénibilité, ça faut se le dire. C'est quelque chose de qui est pénible, je veux dire, qui est pénible à notre nature. Bon, ça on s'en rend compte tous les jours. Hein.
On avait une conversation juste avant là, sur la psychanalyse qui fait qu'on va très loin dans la découverte de soi-même et dans la compréhension de soi-même, etc., et savoir est-ce que c'est bon d'aller aussi loin que ça pour faire ressortir peut-être des choses qui sont.
Bah, je crois que ça peut être un bien, mais il faut aussi accepter qu'on est imparfait. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Alors si. Je crois que ça peut servir. Il y a des choses qui sont ensuite. On se fait des nœuds dans la tête après, puis. Où on a un certain nombre de. Mais à un moment donné, le fait de savoir ne va pas faire que je vais changer. Je peux très bien savoir, je sais pas quoi, j'ai peur de ceci parce qu'un jour j'étais enfermé dans le noir et que mes parents m'ont abandonné une nuit, je sais pas quoi. Et puis maintenant, dès que je suis enfermé de quelque part, je suis claustro. Bon, maintenant je sais. Et ensuite
Ça permet quand même de canaliser ses émotions, de savoir d'où elles viennent.
Savoir d'où elles viennent, mais. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est un travail de l'intelligence, ça, pour le coup, pour aider à découvrir.
Bah, peut-être ça sert peut-être aussi à comprendre aussi les actes de.
Compose, oui.
Peuvent poser dans les autres sans comprendre pourquoi.
Mais derrière ça, je crois qu'en soi, c'est bien. Je pense que c'est quelque chose de positif. Mais derrière ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas le désir de certaines. Comme si on ne voudrait plus avoir du tout de points faibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est
la recherche de la perfection.
Une certaine perfection, comme si je voudrais une certaine impeccabilité.
J'ai une explication à tout.
Et oui.
Ah bon, en sachant quand même que des fois, il y a des choses pour lesquelles il faut trouver des explications. Quand elles prennent trop d'importance.
Oui, quand elles prennent trop d'importance, certainement. Mais en même temps, ça remet de se dire, même si je sais, mais parfois je n'y arrive pas. Et ça, je crois aussi, on en fait la. Qu'on a eu l'affaire à un psychologue, etc., et qu'on a vu un certain nombre de choses qui expliquent nos manières de réagir, on peut savoir, mais on, et c'est là où on se remet humblement sous la main du Seigneur, ben on dit, ben, au moins je sais où demander la grâce, ça c'est important, je trouve. C'est, je dis, ben là, c'est là, ça vient de là. Déjà, rien que ça.
On peut enchaîner de oui. petits cercles vertueux.
Tout à fait, tout à fait. Tout en sachant qu'on n'arrivera pas à une impeccabilité. C'est-à-dire, faut, parce que sinon, ça pourrait nous décourager. C'est-à-dire que, bon, c'est du domaine de l'aide.
Il faut s'arrêter au bout d'un moment, quoi.
Bah, de dire, ben voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et puis le Seigneur, même comme ça aussi, je veux dire, c'est... Bon. Donc on était l'esprit, l'égalité d'esprit. Hein. Alors qu'il y a plusieurs comportements immatures par rapport à ça. Soit le fait d'être victime, soit le fait de culpabiliser les autres, soit un certain repli sur nous-mêmes, à cause de parce que notre affectivité a été blessée, ou un côté susceptible. Hein, on n'arrive pas, au fond, derrière tout ça, c'est que on n'arrive pas à prendre de la distance, on peut dire ça. On n'arrive pas à prendre de la distance entre ce que l'on ressent et ce qui est. C'est-à-dire, c'est... l'intelligence ne fait pas assez, d'une certaine manière, son travail. Hein, c'est... Donc là, le don de maîtrise de soi, ce sera le fruit de l'Esprit-Saint, ça nous aidera justement à prendre une juste mesure des choses, une juste distance, une certaine égalité d'humeur. Hein, certaine égalité d'humeur. Le deuxième point, c'est le fait...
La maîtrise de soi, ça, ce sont les sources de la maîtrise de soi. Mais... c'est la maîtrise de soi qui nous amène
ça, c'est les trois manières dont s'exprime la maîtrise de soi.
Ah oui, mais alors si c'est la maîtrise de soi qui nous amène l'égalité d'esprit et l'égalité d'esprit qui nous amène la maîtrise de soi, c'est pareil, c'est difficile de prendre le trait en main.
Oui. En même temps, on va terminer, puis ensuite on verra s'il y a d'autres choses. Hein. La prudence dans les décisions. Alors, ça, c'est très intéressant de méditer sur la prudence dans les décisions. Dans la manière d'agir, il y a toute décision, surtout les plus importantes, doivent avoir trois étapes. Premièrement, la réflexion. Deuxièmement, le conseil. Troisièmement, l'action. Premièrement, la réflexion. Donc, ça veut dire quoi? Que ma intelligence sert à ordonner les moyens aux fins, hein, sert à hiérarchiser les fins, c'est-à-dire à dire ben, qu'est-ce qui est le plus prioritaire. Mais surtout que quand je prends une décision, que j'ai le temps de la réflexion. Et c'est souvent ce qui me manque, le temps, ce qu'on appelle de la délibération. Je me dis à moi-même, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour les décisions les plus importantes, on va s'acheter un pain au chocolat, on ne va pas non plus rester 3 heures devant la boulangerie. Parce que là, non mais il y en a, ben on va voir, chaque chose a une certaine déviance aussi. Ben oui, ben elle a déjà décidé. Comment? Ben pour peut-être ne pas l'acheter.
Je veux dire, le moment tellement long,
oui.
Justement, être pour ne pas l'acheter.
Oui, oui. Ben on va voir ça, justement. Justement, donc, on va voir si on va y venir.
C'est du vécu.
Donc, de faire au fond que la réflexion, que ça veut dire quoi? La réflexion, c'est ce qu'on a dit, et non pas l'émotion, hein, est à prendre en compte quand on a à prendre des décisions. Mais il y a deux obstacles, disons, deux manières par rapport à ce point-là de travers, on peut dire ça, où la personne qui est indécise et qui toujours sera dans une étape de réflexion sans jamais passer à l'action, qui est une forme aussi d'immaturité, une forme de... elle se laisse au fond derrière ça, il y a une angoisse, un stress, une anxiété, une peur d'être jugé, une peur de regard des autres, qui fait que je ne passe pas à l'action. Ou alors, et ça c'est très souvent, on agit sans réfléchir. Non, la réflexion. On est toujours à la réflexion. La délibération. Je me dis à moi-même pourquoi je fais ceci. Je me le dis. C'est d'autant plus important quand on exerce l'autorité qu'on a à le dire aux autres.
Ah, c'est si on fait pas, si on n'a pas cette première étape, on risque la décision.
Oui, de ça. Je suis pas assez clair, mais dans l'étape de la prise de décision, la prudence dans la décision, il y a trois étapes. Il y a la réflexion, il y a le conseil, et il y a l'action.
Ça, on l'a beaucoup, enfin, on est tous, surtout dans l'histoire des punitions qu'il en faut, en fait. C'est punition pour un enfant doit être réfléchie.
Ben oui. Et puis les interdits, par rapport aux interdits, il y a toujours des interdits. Ils vont être réfléchis. Surtout dans une société actuelle où les interdits ont volé en éclats, etc. Bon, il y en a d'autres par ailleurs, mais qui se créent, mais il faut dire pourquoi. Et surtout quand on a exercé l'autorité, il faut dire pourquoi on prend telle décision. Mais ça implique soi-même d'y avoir réfléchi. Et non pas dans l'urgence, comme ça, prendre des décisions à brûle pour point et ensuite dont on ne sait pas rendre compte. Hein. Donc la prudence, la première opération de la prudence, la première étape, on peut dire, hein, c'est la réflexion. La deuxième est donc avec les deux travers que j'ai remarqué, soit l'indécis, soit celui qui agit sans réfléchir.
Ah bon, on est quand même dans la vie réelle, amené à prendre des décisions de manière quand même très rapide.
Oui.
Des petites décisions, mais qui peuvent avoir des portées aussi importantes pour la personne.
Oui, par rapport à l'autonomie, même de façon générale, même de façon générale. Oui, et on perd aussi de la sûreté dans la décision.
On demande conseil
et on passe à l'action.
On n'a pas le temps de demander à quelqu'un d'autre. Non, mais on peut très bien avoir à faire le coup.
Mais parfois, on peut passer un coup de fil.
Et puis, on prend la décision.
Mais vous voyez, je crois que c'est ça. C'est une question d'entraînement. De se dire, au fond, quand je vais prendre une décision, je sais que j'ai trois étapes. Et à la fin, ça devient une seconde nature. Une manière d'agir qui fait dire, est-ce que je prends conseil? Est-ce que j'ai réfléchi? Tac, et ça peut se faire assez vite. C'est pas... Le conseil, demander conseil, ça veut dire on n'agit pas dans les grandes décisions, les plus grandes décisions, sans avoir demandé conseil. Hein? Ne serait-ce qu'un coup de fil, ne serait-ce que qu'est-ce que tu en penses? C'est un acte d'humilité, vous voyez.
Dans les décisions du couple, c'est souvent vu, parce qu'il y en a soit l'un soit l'autre qui prennent des
décisions. Mais
sans avertir l'autre.
Ben, si c'est pour vivre, c'est pour vivre comme célibataire, pas peine de se marier. Non, mais c'est vrai. Si c'est pour vivre en couple, c'est
ça,
évident.
Ça complique les choses.
Ah ben. Non, mais. Non, mais oui, mais ça complique les choses. Oui, ben oui, ça. Oui, ça, parfois ça nous ralentit. Parfois. Bon. Alors, par rapport à cette question du conseil, là aussi, il y a deux formes d'excès. Soit celui qui demande conseil à celui qui ne peut pas le conseiller, les gens qui, par exemple, se confessent à leur coiffeur, ou demandent ou racontent leur vie matrimoniale à leur boucher, c'est extrêmement fréquent. Hein, parce que les gens sont très seuls, quand même, pour faire face à beaucoup de choses dans nos sociétés contemporaines. Bon. Donc, on demande conseil à une erreur sur la personne, soit la personne qui ne demande pas du tout conseil, qui réfléchit et agit sans avoir pensé qu'au fond, dans cette maîtrise de lui-même, le conseil peut apporter un élément supplémentaire. Vous voyez, le conseil, je trouve que, voir comme responsable de congrégation, il y a un conseil. J'ai trois conseillers, et trois conseillers très différents les uns des autres. Et c'est toujours intéressant de dire, mais qu'est-ce que vous... Même si la décision, elle est mienne, mais il y a toujours un éclairage. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose auquel on n'aura pas pensé. Je veux dire, c'est... Peut-être pour conforter, peut-être pour affirmer, peut-être, mais la question du conseil, au fond, ça, même pour l'autorité, ça éclaire vraiment beaucoup. Hein, c'est... Ou alors il y a ceux.
Et attention aussi, peut-être un troisième point, de ne pas faire porter à celui à qui on demande conseil le poids de la décision.
Ouais, c'est un conseil. C'est pas lui qui prend la décision.
Parce que,
Mais c'est un conseil. Ça ne peut être qu'un conseil. Hein, pourquoi je pense, dans ce rôle-là, c'est le père spirituel. Le père spirituel n'a pas à prendre la décision. Il n'a pas. Je ne sais pas quoi. Il y a un jeune homme qui vient et dit bah, j'aimerais me marier. Mais tu dis marie-toi. Non, ce n'est pas à lui de dire ça. Il l'aide à réfléchir. Il est de l'ordre du conseil. Il n'est pas de l'ordre de l'action. Mais il y a aussi un travers. Il y a ceux qui demandent toujours conseil. qui cherche tout, vous voyez, comme une forme d'anxiété, toujours à se rassurer. Toujours à... Oui, oui, vous savez, mais monsieur Machin m'a dit que j'étais bien. Le père Machin, le Machin, le directeur de ceci m'a dit, vous savez, j'avais bien raison de faire ça. C'est donc. La troisième, donc... ou alors, il y a aussi demander conseil à la bonne personne, mais faire ne pas écouter les conseils. Faire complètement à l'inverse. On lui dit, vous savez, tout le monde lui dit, vous savez, c'est mieux d'aller à droite, d'aller à droite, là. Bon, on va à gauche. Ou alors, c'est mieux, écoutez, faites ceci, on fait l'inverse. C'est assez intéressant dans notre manière de fonctionner, et ça, c'est dans l'exercice de l'autorité, il y a de grosses conséquences. La troisième...
Il y a aussi la déviation cartomancienne, où on va chercher un conseil.
Voilà.
Quand on sait ce que ça va être, enfin, qui va être celui qui nous convient.
Qui nous convient. On n'ose pas demander conseil vraiment à des personnes, se laisser contredire, quoi. Qui pourraient ne pas être d'accord avec nous, qui pourraient ne... La troisième chose, donc, c'est l'action. Dans l'action, il y a ce qu'on appelle donc le fait de passage à l'acte. Là aussi, il y a des difficultés. Premièrement, il y a celui qui est velléitaire, qui ne passe jamais à l'acte. Celui qui n'est pas non plus persévérant, qui commence, mais dès qu'il voit qu'il y a des inconvénients, tac, il s'arrête. Et pourquoi ça? Parce que bien souvent, il n'a pas assez pris le temps de la réflexion. Parce qu'il faut voir que même au cours d'une action, j'ai plusieurs fois à réfléchir. Pourquoi je veux fonder une entreprise? Ça prend du temps. Donc, il y a tel pas, ensuite il y aura tel autre, il y aura telle chose. Mais à l'intérieur même d'une action, je peux être amené et à reprendre conseil, parce qu'il y a un pas suivant à faire, ou il y a une optique nouvelle qui se présente. Donc, rebelote, c'est-à-dire, tiens, il y a quelque chose, est-ce que je prends conseil? Est-ce que j'ai réfléchi? Et bien souvent, les personnes qui s'arrêtent au milieu du chemin, c'est qu'il y a... Elles n'ont pas assez ce qu'on appelle l'amour de la finalité, c'est-à-dire le but qu'elles poursuivent. D'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai vu un reportage, pas très longtemps, mais qui était assez hallucinant. Et ça m'a pas mal servi, ça pouvait paraître un peu fou. Un type, il était en Lorraine, et il a décidé de construire lui-même un bateau. Un énorme bateau. Mais le type, mais il était mobilisé par la faim. Il était... Puis tout le monde disait, il a commencé à taper les tôles sur le trottoir. Il était, je pense, travaillé dans la sidérurgie ou dans les mines, je ne sais pas quoi. Bon. Et c'était assez intéressant de voir ce reportage. Je dis, au fond, cet homme-là, il y a eu des obstacles, mais il était tellement. Il y avait l'amour de ce bateau qu'il voyait et qui était tellement mobilisé. Tout était ordonné à ça. C'est-à-dire, tout, il ne pensait que pour ça, son imagination était pour ça, ses moyens financiers étaient pour ça, son intelligence était pour ça. Bon, on voyait bien, et il est arrivé, il y avait des obstacles. Bon, entre autres, il y a eu la mort de son fils entre-temps, mais il y a eu des tas d'obstacles. Et certains lui disent, mais qu'est-ce que c'était fait, un bateau en pleine Lorraine, etc., un chantier naval, bon, ça peut paraître aberrant. Non, mais c'est vrai qu'on regarde ça comme ça. Vous voyez, mais je trouve ça intéressant parce que c'est l'exemple, bon, tout simple, mais qu'on peut voir aussi dans la vie des saints, des gens qui sont tellement finalisés que quels que soient les obstacles, eh bien, ils trouvent les moyens. Et souvent, on n'a pas assez d'amour de la finalité, on ne sait pas pourquoi on veut ce qu'on veut. On n'aime pas assez. Et c'est l'amour qui nous fait passer à l'action. Et plus notre amour est fort, hein, plus on sera à même de passer au-delà des épreuves. Parce qu'on sait pourquoi on veut faire ce qu'on fait. Hein, lui, c'était un rêve d'enfant, un rêve de gamin, de construire son bateau, et son rêve, ben, il a voulu le faire réalité, quoi. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis... Mais voilà, quand on voit quelqu'un qui est motivé, ça, il y en a un Allemand qui était venu avec sa remorque pour emmener le bateau auprès de la mer, parce qu'il était pas... il était à l'intérieur des terres, le type. Je veux dire, c'est vrai que c'est spécial, quand même, un bateau de 20 mètres, je ne sais pas combien, un truc énorme. Non, mais c'est spécial, on se dit, mais il est... On l'a pris pour un fou. Hein, mais c'est assez intéressant de voir au niveau humain, voilà un homme qui était finalisé, bon, une finalité X, bon, ni bonne ni mauvaise, je veux dire plutôt bonne, mais bon. Un type tout simple, un type qui est ouvrier dans la mine, mais il avait une idée, il y allait jusqu'au bout. Et je trouve que c'est ce qu'on appelle aussi la grandeur d'âme, qui est importante dans l'exercice de l'utilité. La grandeur d'âme, c'est-à-dire être magnanime. Être magnanime, c'est-à-dire avoir une âme grande. C'est-à-dire une âme qui n'a pas peur, au fond, d'affronter la difficulté, d'aller même au-devant de la difficulté. Mais parce que l'amour du but est là. Alors vous voyez évidemment tout l'exemple des martyrs, toutes les personnes qui... L'amour du Seigneur a été tellement fort que même leur propre vie n'est pas rentrée en ligne de compte quand il s'agit de confesser leur foi. Ils n'ont pas eu peur de livrer leur vie, parce que c'est l'amour de Jésus qui a été là, le centre de leur vie. Donc il y a le velléitaire, mais il y a ce qu'on appelle le pusillanime. Le pusillanime, c'est celui qui s'arrête en chemin. Comme je disais, c'est l'inverse du magnanime. Le magnanime, c'est celui qui a une âme grande et qui va il ne regarde pas la dépense. Mais pas la dépense seulement financière. Il ne regarde pas la dépense de lui-même. Alors que le pusillanime, tout de suite, il y a une difficulté, possibilité d'échec, etc. Oh là, tac, 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 bon, je fais marche arrière parce que là, ça peut... ça sent le roussi, etc. Je vais plutôt faire autre chose. Parce que derrière ça, je trouve l'exemple de Jésus, justement, éclaire cette partie-là. Jésus qui a aimé notre humanité jusqu'à se donner pour elle. Hein, l'exemple du Seigneur, hein, c'est « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Donc on voit que le fait d'agir, c'est vraiment l'amour qui nous meut hein, intérieurement, qui nous pousse à. Et je trouve qu'on n'éduque pas assez les volontés en général. L'amour est dans la volonté, l'amour n'est pas dans la sensibilité, l'amour n'est pas un sentiment. Hein, Jésus ne nous a pas commandé un sentiment. Aimez-vous comme un sentiment, de cette manière, ça ne se commande pas, ça vient sans qu'on le veuille. L'amour est dans la volonté. Quand je prépare les fiancés au mariage, et on fait le commentaire de l'échange des consentements, de fait, dans l'échange du consentement, on ne demande pas aux fiancés s'ils s'aiment. Est-ce que vous voulez prendre Gertrude pour épouse? Oui, je le veux. Et on voit bien que quand on veut, et je pense pour l'amour matrimonial, c'est pareil, est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas? Est-ce qu'on veut encore? Est-ce que notre volonté, notre capacité est orientée vers ça? Ou on a regardé ailleurs? Ou avec les difficultés, intérieurement, on s'est refroidi hein, et notre volonté n'est pas vraiment dans ce sens-là, hein, de construire une communauté une communauté d'amour. Hein, vous voyez, il faut éduquer plus dans le sens de la force, du courage. Ça, on ne parle pas assez du courage. Ça même parfois, ça devient ridicule parce que les gens de nos... Mais je trouve qu'il faut éduquer au courage. Le courage qui est une manifestation de l'amour. C'est parce que j'aime que je suis capable de dépasser les épreuves, même d'aller à la rencontre des épreuves. Et cet homme-là, là, qui a construit son bateau, il a pas eu peur d'être ridicule. Aux yeux des autres, il dit, c'est un fou, c'est un malade. Il n'a pas eu peur d'être ridicule. Hein? Oui. Oui.
Et il disait que c'était plus important pour lui d'éduquer d'abord les enfants à être forts que au bien.
Ah oui.
Ça m'avait marqué, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent.
Non.
Mais d'abord...
À la force. Ah, parce que la force qui n'est pas la violence.
Ah,
ouais. Oui. Mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et je crois que parfois, on n'est pas assez que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du démon. On n'est pas assez tac, mais on est à tout niveau. On n'aime pas assez. On est moi oui peut-être bien oui peut-être maintenant et puis ça me fatigue et puis ça m'exerce et puis ça me demande de on n'aime pas assez la finalité, ce pourquoi ce qu'on a choisi au fond.
C'est là où je vois l'histoire de la colère qui fait partie des mauvais.
Oui.
D'un autre côté, il y a aussi la colère qui peut être signe de
la colère, au fond, qui est... Oui, c'est...
À la fois, elle peut être un désordre,
mais elle peut être signe
de quelque chose de bon.
De bon, tout à fait. La colère qui peut être chose de bon, c'est... qui n'est pas, qui n'est... Oui, mais qui n'est pas une colère qui... Je peux décider, je me mets en colère. Je peux très bien le décider. Donc la colère qui n'est pas forcément contre la maîtrise de soi. Je peux tout à fait, parce qu'il y a un mal en face de moi et ce mal, je veux l'éviter, me mettre en colère. Ou parce qu'il y a un bien à défendre et je me mets en colère parce que c'est ma famille, parce que c'est ceci, parce que... Et là, je peux hausser le ton de la voix.
C'est une colère.
Oui, oui, mais vous voyez, c'est cette maîtrise qui est un don de l'Esprit Saint, hein, qui est, et un fruit de l'Esprit Saint en nous. Donc, je pensais à la question de l'action. Donc, la prudence, on a la réflexion, le conseil, l'action, avec les différentes difficultés qu'on peut rencontrer, ou les... Hein, ou, par exemple, dans l'action, j'ai une difficulté qui peut être rencontrée, on n'ose pas dire non. On n'ose pas dire non. Et vous savez, comme prêtre, vu le manque de prêtres, on passe son temps à dire non. On est demandé ceci, on nous demande par là, on nous demande par là, bon, on nous demande de partout. Et on n'est pas les seuls dans le cas, et puis un prêtre en paroisse, je n'ose même pas y penser, ils sont tout le temps sollicités. Agir, ça peut être aussi dire non. Est-ce que la force, justement, mais je sais pourquoi je dis non, c'est-à-dire que j'ai pu mettre une priorité dans mes actions. Je n'ai 24 heures dans ma journée, hein, et je veux dire, quelle est la priorité, quelles sont les priorités. Moi, j'ai pris un peu ce système-là, mais bon, qui vaut ce qui vaut, mais le fait de penser, par exemple, son agenda. Vous voyez, de prier, moi souvent le matin, en temps de prière, j'ouvre mon agenda, ben, je vois qu'est-ce que j'ai dans la journée, qui je vais rencontrer, ben, c'est l'occasion de prier pour les personnes que je vais rencontrer. Un peu de mettre de l'ordre dans mes idées, de remettre ça sous le regard du Seigneur, de demander au Seigneur sa grâce pour les rencontres que je vais avoir. Et quand je suis en train de faire mon agenda, de dire qu'est-ce qui est prioritaire. Mais vous voyez, on est tellement dans l'immédiateté, on est tellement peu dans la réflexion et... Vous voyez, donc c'est pas la réflexion dans le sens académique, hein, c'est vraiment une vraie exercice de l'intelligence qui sait mettre les priorités, au fond. Hein, et qui sait mettre Dieu à sa place, parce que ça fait partie évidemment des priorités. Troisième point, qui est un des signes, ou un des chemins vers la maîtrise de soi, c'est bon jugement des événements et des personnes. Il y a parfois une attitude intérieure qui fait que par rapport aux événements, justement, on n'arrive pas à prendre une distance par rapport aux événements. Et donc, ça fait qu'on va donner à un événement une importance beaucoup trop grande. Et à croire que notre vie se résume à tel événement. Je vois ça dans l'accompagnement spirituel. Parfois, on est obligé de dire, mais vous avez autre chose dans votre vie. Il y a eu cet événement, souvent douloureux, difficile à vivre. Mais vous avez quand même eu autre chose dans votre vie. Vous n'êtes pas résumé qu'à ça. Donc, donner à l'événement sa juste mesure, c'est-à-dire que je le vois comme à la fois... je le reçois de la main du Seigneur, tel événement. Bon, telle blessure, telle difficulté, je l'accueille. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui va me déterminer. Il n'y a pas que ça. Ça peut m'influencer dans ma manière d'agir, mais il y a... De même par rapport aux personnes. Il y a parfois un risque d'être trop fusionnel avec les personnes, d'avoir un rapport trop dans l'affectif, dans le sens, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas aimer même tendrement, même avec de l'affection, avoir de l'affection pour les uns et les autres, mais... C'est avoir cette attitude intérieure de voir l'autre comme différent de moi, et donc je n'ai pas à être dans la fusion, je n'ai pas à demander à l'autre de me donner, on voit un peu ces adolescents, etc. Ils sont toujours ensemble, toujours scotchés, à croire que c'est le signe de l'amour ou le signe de l'amitié. Bon, non, il faut sortir de la communion n'est pas la fusion. C'est pas la fusion, il n'y en a pas à être dans la fusion avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire dans la fusion, c'est comme si on n'était qu'un, d'une certaine manière, comme on fait tout ensemble, on fait, bon, c'est plutôt ado, comme, mais parfois l'adolescence qui se prolonge un peu tard.
c'est important, parce qu'on a eu le cas avec une fille, et en fait, on a eu du mal à la retirer de cette personne. En
oui,
fait,
hein, il y a des personnes qui attirent...
Qui ont l'ascendance sur les autres.
Exactement. Exactement. Et l'autre ne voit pas où est le problème. Et l'autre est heureux comme ça parce qu'en fait, il est pris en charge. Mais c'est, il est sous, la personne est sous emprise. Et elle ne s'en rend pas compte.
Elle pensait qu'on la persécutait.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais les phénomènes d'emprise, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et oui, quand il y a une question spirituelle en plus qui se joue là, ou c'est dans le cadre de l'Église, etc., c'est très très difficile. Il faut. Je n'ai pas à mélanger les. Je n'ai pas à mélanger mon être avec l'autre. C'est pas possible. Je n'ai pas à mélanger ma personne avec l'autre. Je vais pas demander à l'autre de me faire exister. Ça, c'est de l'idolâtrie. Hein. C'est ce que dit Saint Paul. Hein. Idolâtrie, sorcellerie, haine. Ben voilà, ça, c'est agir selon la chair. Ça, c'est... Parce que c'est vrai, c'est un côté plus commode. L'autre dessine à ma place, surtout si c'est quelqu'un qui a de l'aura, quelqu'un qui a un ascendant, quelqu'un qui est reconnu. Vous savez, moi, je suis le truc. On est comme les deux doigts de la main. Du coup, vous voyez, ça me donne une existence. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Du coup, je pense aussi à un truc qui est important, mais on est venu me voir, quelqu'un est venu me voir, mais il n'est pas venu me voir après. Mais une entreprise chrétienne. Évidemment, je n'ai pas dit ce qu'il attendait. Mais une entreprise chrétienne. Il me dit, voilà, j'ai fait une entreprise chrétienne. Bon, c'était un... On prie le matin avec mes collaborateurs, etc. Ah, moi, j'ai halluciné. Moi j'ai tiré le signal d'alarme. On n'a pas à mélanger les genres. Vous voyez, ça fait partie de ça. Ça fait qu'il y a une bonne perception des personnes. Il dit, mais vous ne savez pas comment ça les fait grandir, etc. Oui, certainement, mais... pense à l'entreprise, elle a aussi une limite. Elle doit pourvoir un certain nombre de choses, mais il y a un truc où elle n'a pas accès. Ça, c'est très très clair. Parce que, alors, du coup, la personne est un peu. Mais vous savez, j'ai demandé un conseil à Monseigneur Machin, etc. Bon, ben, si vous lui avez dit oui, allez-y, mais bon, mais moi je dis non. Parce que, pour justement ça, pour la question de l'emprise. Parce que si on mêle en plus le matériel avec le spirituel, alors, attention les détonateurs.
Vous avez des indices pour différencier la communion de la fusion?
Oui. Est-ce que je suis capable de dire non à l'autre? Est-ce que je suis capable de le déplaire, de lui déplaire? Est-ce que je suis dans une attitude de culpabilité par rapport à l'autre? Je me sens coupable parce que je ne suis pas un gentil qui fait tout ce que le monsieur dit. Ça peut arriver.
Toute personne qui est un peu allergique au conflit, elle se sent coupable de toute personne qu'elle va...
Oui, mais du coup, elle sera beaucoup plus sujette à être sous emprise. Ah oui, il y a quelqu'un qui est allergique au conflit, il se mettra vite dans l'indépendance de quelqu'un, surtout qui a de l'aura, et qui d'entre nous aime les conflits, je veux dire, sauf cas particulier, en général on les aime pas trop, mais bon, ça fait partie de, justement de la maîtrise de soi que d'aller à l'encontre des conflits, d'affronter le conflit. Bonne distance par rapport, il y a des personnes avec qui il faut rentrer en conflit, sinon manque de charité. La charité, c'est pas ne pas le conflit, je veux dire, Jésus a créé un certain nombre de conflits, je veux dire, autour de lui... regardez un peu les conflits qu'il a créés, ça a mis un sacré bin, ça. Pour arriver. Non, mais la communion n'est pas la fusion. J'ai à l'autre, l'autre doit être autre que moi. Je n'ai pas à mélanger mon être avec l'autre. Je n'ai pas à demander à l'autre de me laisser, de me faire exister, de me sécuriser. Et ça peut arriver à l'étape adulte. Hein. On parle d'adolescents, mais c'est plus fréquent. Mais combien on voit toutes les questions des sectes. Toutes les questions des sectes. C'est pour ça, entre autres choses, pour que vous sachiez que dans une communauté religieuse, le supérieur ne confesse pas ses frères. Parce que je ne peux pas être à la fois dans la demande. Si c'est marqué dans le droit, c'est que c'est précisément que ça s'est fait. Sinon, c'est dans le droit canon. Ça. Je ne peux pas à la fois demander à mon frère ça aussi, et en même temps, de l'autre côté, le confesser de l'intérieur.
Le pape, il se confesse à qui, alors?
Hein? Le pape, il n'y a pas de problème. Il y a moitié dans le show. Il y a tout le monde pour se confesser, au contraire.
C'est qu'il a droit de confesser personne.
Ben, lui ne confesse pas. Lui ne confesse pas des personnes avec qui il est en autorité directe.
Ouais.
Bon, souvent Jean-Paul II allait confesser à Rome, mais on a des gens qui en verra plus, etc. Mais il ne va pas les confesser les membres de sa curie, la curie romaine, par exemple, certainement pas.
C'est confessing, c'est la direction spirituelle.
Les deux. La direction spirituelle, et surtout les deux, tout ce qui est, je n'ai pas à avoir accès à... Et ça, il faut faire gaffe aussi, parce qu'on peut être vite tenté dans le domaine, justement, quand on est en autorité, de prendre en charge l'autre. Et parfois, il y a une demande. Et donc, de se mettre comme conseiller matrimonial, de dire, bah oui, tel problème, vous savez, j'ai des problèmes d'alcool, ou j'ai des problèmes de ceci. Et l'autre vient vers vous, parce que vous êtes en autorité, pour vous demander conseil.
Est-ce qu'on peut se confesser, c'est une question, on dit peut-être, mais se confesser à un ami, enfin, le prêtre
est un... Ah oui, non, ça, c'est pas un problème, ça. Ça, en tant que ça, c'est un prêtre ami, ça, c'est pas une difficulté. Mais bon, c'est pas...
C'est d'avoir une limite dans le pouvoir.
Ben, c'est toujours pareil. On en revient toujours à la même chose. On a une limite, mais pas Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, Oui, non, mais il y en a pour qui c'est pas si facile. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais il y en a pour qui ils n'arrivent pas à prendre conscience de ça. Il y a comme une forme de toute-puissance, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance en psychologie. L'enfant doit sortir de la toute-puissance pour accueillir justement que. Il n'est pas le tout, il n'est pas le tout de ses parents, il n'est pas le tout de sa maman, il doit petit à petit sortir de la toute-puissance pour justement rentrer en relation. S'il est dans la toute-puissance, ben l'autre sera le prolongement de moi. Donc je ne verrai pas la différence entre l'autre et moi, on sera dans la fusion. Donc quand on a un an ou deux ans, ça va, mais quand on a 30 ou 40, c'est un petit peu pénible. Quoi. Donc, surtout quand on a le pouvoir. Quoi. Bon jugement des événements, bon jugement des personnes. Et bon jugement des événements. Ben, on disait de ne pas donner un événement, en même temps de recevoir l'événement de la main de Dieu, et en même temps de ne pas surdimensionner un événement. C'est intéressant de voir que le mot événement en hébreu, c'est le même mot que parole. La parole de Dieu est un événement. Dieu dit et cela fut. Pour l'homme de la Bible, la parole est événement. Et l'événement est aussi parole. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur à travers ça, hein, d'avoir une attitude de foi. Hein. Voilà. Donc au fond, c'est ces trois, on peut dire, axes, à la fois qui sont les signes, mais en même temps qui sont les chemins. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est arrivé à la maturité, à la maîtrise de soi, à un moment donné, c'est quelque chose. Mais en même temps, à conquérir chaque jour, mais en même temps de dire à quoi je peux, sur quel point, disait, sur quel point je peux travailler. Alors peut-être j'ai coché toutes les cases, mais sur quel point je peux travailler. Quel aspect des choses, que ce soit dans l'égalité d'esprit, que ce soit la prise de décision, hein, que ce soit dans la bonne perception des événements ou des personnes, mais on a tous des choses justement où c'est pas forcément en place, quoi. Et donc ensuite au niveau de l'autorité, parce que le thème de notre journée c'est l'autorité, parce qu'on n'a pas forcément une maîtrise de soi-même à travers ces aspects-là que je viens de citer, ben, l'exercice de l'autorité sera plus difficile, parce que précisément on dit c'est d'abord une autorité sur soi-même, une maîtrise de soi, un travail sur soi-même. Ça... Et donc voyons aussi, même si ça a parfois un caractère pénible, mais voyons l'autorité comme une chance au fond, qui nous est donnée comme un service, comme une faveur, qui nous est donnée pour pouvoir déjà servir le bien de l'autre, mais aussi pour s'améliorer, pour se bonifier. Hein, mais c'est pas sans combat spirituel, c'est pas. Arrêtons de croire, il y a toute une mentalité de facilité, oui, mais la facilité ne rend pas l'homme heureux. Ça ne rend pas l'homme heureux. C'est un mensonge. Hein. Le bonheur n'est pas facile. Il est possible, mais il n'est pas facile. Il y a une certaine pénibilité, une certaine, voire souffrance. Des choses à dépasser, parce que dans ma nature, il y a des gens qui, par exemple, sont très affectifs. Bon, les gens qui sont très affectifs, évidemment, quand on leur dit égalité d'esprit, quand on leur dit d'affronter les conflits, quand on leur dit ça, bon, ça, au niveau de leur nature, ça leur fait mal. C'est douloureux. Mais si justement, je n'ai pas dans mon intelligence, dans mon cœur, quelque chose qui m'emmène un peu plus loin que la difficulté immédiate, ben je m'arrête à la difficulté, puis je suis comme un gamin, quoi, je ne grandis pas. Et donc, j'aurai beaucoup plus de mal à exercer l'autorité ensuite.